Madame Danielle Gaziglia Laster est un écrivain critique et a publié plusieurs livres et articles, donné de nombreuses conférences sur les œuvres de Victor Hugo, Marcel Proust et Jacques Prévert, dont elle est spécialiste. Elle appartient au Centre de recherche proustienne de Paris 3 et participe aux activités du groupe interuniversitaire de Hugo de Paris 7 et à celle du Centre de recherche surréaliste de Paris 3. Elle est membre édieu du conseil d'administration de la Société des Amis de Victor Hugo et rédactrice en chef de son bulletin. Ayant contribué à de nombreuses revues et expositions, elle a récemment publié le dossier Hugo au cœur du monde avec M. Arnaud Laster et édité à l'ADPF.
C'est amusant parce que ce n'était pas prémédité, mais ma communication est tout à fait dans la continuité de celle de Didier Chiche. C'est un petit peu la suite, mais on a un nouveau personnage qui intervient et qui, lui, ne va pas se laisser dévorer par Victor Hugo. Qui sait, ce sera peut-être un petit Victor Hugo, une espèce de volabelle. C'est ainsi que l'oncle Adolphe présente le narrateur dans la recherche du temps perdu à une séduisante dame en rose. Présentation qui se veut élogieuse. Il a tous les prix à son cours, dit aussi l'oncle Adolphe à voix basse, car il ne veut pas que le jeune garçon entende ce mensonge et le contredise. Si l'oncle flatte son neveu en lui prêtant des prix qu'il n'a pas obtenus, on peut en revanche constater que ses prévisions sur l'avenir de l'enfant ne sont pas d'une grande ambition. Il sera peut-être un petit Victor Hugo, c'est-à-dire un Victor Hugo de petit format ou une espèce de volabelle, un historien sans grande notoriété. Malgré cette vision modeste de l'avenir de son neveu, Adolphe ne lui désigne-t-il pas involontairement un modèle idéal, être Victor Hugo, être aussi grand que Victor Hugo ou n'être rien, pas même un volabelle. Voilà, une fois croisés les propos de l'oncle avec le projet attribué au Hugo de 14 ans, je veux être Chateaubriand ou rien, une alternative qui pourrait bien se trouver au cœur du roman proustien. Elle témoigne de l'image de Hugo à l'époque de Du côté de chez Swann et encore au moment où Proust écrit son roman. Celle d'un géant de la littérature à côté de qui l'apprenti écrivain ne peut que se sentir tout petit, une sorte de père pour les littérateurs, qui le nomme volontiers avec un mélange d'affection et d'irrespect, le père Hugo. Cette place occupée par le poète explique en partie pourquoi il est l'objet d'une véritable dévotion chez certains et d'un rejet violent chez d'autres. Mais il est vrai que le rejet est aussi idéologique. L'évolution politique de Hugo à partir de 1848 n'est pas du goût de tout le monde. Entre hugolatrie et hugophobie, comment Proust se situe-t-il? Dans la recherche, l'hugophobie d'origine politique est pointée et critiquée. Les opinions politiques de Hugo ne sont brandies que par des personnages ridicules qui reprochent au poète ses idées avancées. Selon le père de Madame de Villeparisis, il n'aurait reçu le titre de grand poète qu'en vertu d'un marché fait et comme récompense de l'indulgence intéressée qu'il a professée pour les dangereuses divagations des socialistes. Le narrateur, comme Proust, considère Hugo, à n'en pas douter, comme un révolutionnaire, mais il emploie ce mot pour désigner ses innovations formelles. Les appréciations des personnages de la recherche sur Hugo témoignent souvent de leur plus ou moins grande ouverture à la modernité. Le récit d'une soirée chez les Guermantes donne un large éventail de la réception de Hugo à la fin du XIXe siècle. Madame d'Arpajon, tout en trouvant au poète de l'imagination, est effarouchée par ses audaces. Elle appartient à une génération de femmes à qui, explique le narrateur, les premières poésies des romantiques causaient cet effroi et cette fatigue inséparables pour ma grand-mère des derniers vers de Stéphane Mallarmé. La duchesse de Guermantes, un peu plus avancée dans ses goûts, reste très timorée, puisque, tout en déclarant qu'il y a encore de jolies choses dans les contemplations, elle aime autant ne pas s'aventurer après le crépuscule. Le narrateur, lui, admire les recueils qui inquiètent la duchesse, les contemplations dans leur ensemble, et tout particulièrement la légende des siècles, trouvée détestable par Madame de Guermantes. Celle-ci lui fait pourtant comprendre qu'il avait tort de dédaigner la première période du poète. Je cite, « Les vers de Victor Hugo qu'elle m'avait cités étaient, il faut l'avouer, d'une époque antérieure à celle où il est devenu plus qu'un homme nouveau. Dans ses premiers poèmes, Victor Hugo pense encore, au lieu de se contenter, comme la nature, de donner à penser. Or, c'était ces pensées de Victor Hugo, presque aussi absentes de la légende des siècles que les airs, les mélodies dans la deuxième manière wagnérienne, que Madame de Guermantes aimait dans le premier Hugo. Mais pas absolument à tort. Elles étaient touchantes, et déjà, autour d'elles, sans que la forme eût encore la profondeur où elle ne devait parvenir que plus tard, le déferlement des mots nombreux et des rimes richement articulées les rendait inassimilables à ces vers qu'on peut découvrir dans un Corneille, par exemple. Cette opposition entre penser et donner à penser me paraît au centre de la conception que se fait Proust du cheminement artistique. Privilégier les sensations pour plonger au cœur de l'inconscient, au plus profond de soi, et ne faire intervenir l'intelligence qu'ensuite. Or, il est intéressant que le Hugo des contemplations ou de la légende des siècles soit, de son point de vue, en adéquation avec ce cheminement. L'association Hugo-Wagner est aussi de première importance, l'auteur de la recherche s'efforçant, comme le musicien, de construire un vaste ensemble harmonieux et cohérent, sans rupture, où les aspérités ont été abolies. Hugo est donc au centre des débats esthétiques, et le plus souvent, il est le modèle de cette modernité que le narrateur recherche et qui ne rompt pas, comme on l'imagine, avec les œuvres des grands auteurs qui l'ont précédé. Ce romantique est aussi un classique. La querelle des classiques et des romantiques, avatar de celle des anciens et des modernes, est humoristiquement parodiée dans un dialogue entre le baron de Charlus et son neveu, le marquis de Saint-Loup. Il y a plus de vérité dans une tragédie de Racine que dans tous les drames de Monsieur Victor Hugo, dit le baron. Saint-Loup, le romantique, consterné par les propos du baron, s'écrie « Préférer Racine à Victor, c'est tout de même quelque chose d'énorme. » En réalité, Charlus réfrène ses tendances romantiques et son évolution au cours du roman laissera s'épanouir ce romantisme qui est en lui. Ainsi, de même qu'il va oser de plus en plus afficher par ses manières et son langage son homosexualité et braver les interdits moraux, il se décidera à évoquer avec sympathie le drame romantique. À la fin d'une soirée chez les Verdurin, Charlus dit à Morel « Venez, voilà le moment agréable des fêtes, le moment où tous les invités sont partis, l'heure de Donia Sol. Espérons que celle-ci ne finira pas tristement. » Le baron ne sait pas que cette phrase est prémonitoire. Le couple Verdurin, jouant le rôle du terrible Ruy Gomez, se vengera de l'insolent baron en le dénigrant auprès de Morel et en le séparant ainsi de celui qu'il aime passionnément. Charlus ne finit pas aussi tragiquement que Donia Sol, mais voit tout de même sa fête très mal se terminer. Cette scène de la séparation du baron avec son bien-aimé, coup de théâtre pour celui qui ne s'y attendait pas, est bien une réécriture du quatrième acte d'Hernani, préparé ou annoncé par la référence explicite de Charlus. Deux allusions au Burgrave dans des esquisses du côté de Guermantes m'ont alerté sur une autre des inscriptions du théâtre de Hugo dans le texte de la recherche. Elles ne sont surprenantes que pour qui ignore l'immense succès des reprises de la pièce de 1902 à 1913 avec Mounet Sully, que Proust appréciait particulièrement dans le rôle d'Hernani en Job. Le narrateur évoque l'étrange génie qui a pu faire écrire à Victor Hugo les Burgraves ou à Lecomte de Lisle le Lévrier de Magnus, puis dit son bonheur de voir associé sur une affiche Phèdre et les Burgraves. Proust a-t-il vu ou lu la pièce? La correspondance publiée n'en porte pas trace. Mais remarquons qu'un des personnages du drame s'appelle Swann, avec un seul N. Quant au grand monologue de Job, monté très haut en âge et en gloire, et annonçant sa chute prochaine ou celle de son ennemi Barberousse, centenaire comme lui, il pourrait paraître comme une anticipation de l'évocation des vieillards montés sur des échasses à la fin du temps retrouvé. Comme les deux géants d'un monde évanoui, nous restons en effet seuls tous deux sur l'abîme. Nous sommes du passé, la double et sombre cime. Le nouveau siècle a tout submergé, mais ses flots n'ont point couvert nos fronts parce qu'ils sont trop hauts. L'un des deux va tomber, c'est moi, l'ombre me gagne. Proust, paradoxalement, associe volontiers Hugo à Racine, à tel point que l'auteur d'Hernani lui semble dans la continuité de celui d'Andromaque. Agent de Pierrefeu, il écrit le 22 juin 1920 « L'Olympia de Manet continue mieux Ingres que les imitateurs de celui-ci, Victor Hugo mieux Racine que Campistron. » De même à Paul Moron, le 28 juillet 1920 « Vous créez sans discontinuité de la réalité, même si cette réalité me semble peu poétique et souvent laide. » Or, c'est le reproche qui fut fait à Racine et à Victor Hugo, et à Manet et à Courbet. Cela fait dormir tranquille. Mais dans une lettre ouverte à Émile Henriot, du 8 janvier 1921, où Proust répond à une enquête sur classicisme et romantisme, Hugo est remplacé par Baudelaire. Aujourd'hui, on goûte devant Olympia le même genre de plaisir que donnent les chefs-d'œuvre plus anciens qui l'entourent, et dans la lecture de Baudelaire, le même que dans celle de Racine. Un autre article, écrit peu de temps après, à propos de Baudelaire, va plus loin. Proust y exprime son admiration pour Baudelaire, qu'il dit tenir avec Alfred de Vigny pour le plus grand poète du XIXe siècle, et y dénigre quelque peu Hugo. Que s'est-il passé? Un pamphlet hugophobe me semble avoir soudain modifié son comportement. Celui de Léon Daudet, publié dans la Revue Universelle le 1er octobre 1920, que Proust a lu tout de suite, comme il l'écrit à Walter Berry le 6. Il s'y réfère dans une note à son propre texte, y qualifiant l'article en question d'une drôlerie et d'une ampleur magnifique. Preuve de cette influence, les attaques contre le poète, traitées de gros mangeurs et de jouisseurs sans finesse, jugées insincères dans son amour du peuple, faux moyenâgeux, sont démarquées de celles de Daudet. Étrangement, Proust se met à faire de la critique à la Sainte-Beuve et à juger Hugo d'après l'homme qu'il aurait été selon Daudet. Pourtant, il ne peut s'empêcher de reconnaître que le plus beau poème du XIXe siècle est Bose endormi et qu'on ne peut y trouver une pièce égale dans Les Fleurs du Mal. Il estime aussi que Victor Hugo, quand il voulait citer l'antique, le faisait avec la toute puissante liberté, la griffe dominatrice du génie. Et il avoue ne pas pouvoir dire que Baudelaire surpasse Hugo dans la peinture de l'amour. Mais Proust, mieux que dans ses éloges qui lui échappent, a déjà réhabilité Hugo dans les volumes parus de la Recherche, et il va continuer à le faire dans les suivants. Non seulement en manifestant, comme on l'a vu, de l'ironie à l'égard des détracteurs du poète, mais en semant toute son œuvre de références explicites ou implicites à son œuvre. Je donnerai encore un exemple qui me paraît particulièrement intéressant, la réécriture de Tristesse d'Olympio, dans le côté de Guermantes qui va essaimer ailleurs. Je cite « Les poètes prétendent que nous retrouvons un moment ce que nous avons jadis été, en rentrant dans telle maison, dans tel jardin où nous avons vécu jeunes. Ce sont là pèlerinages fort hasardeux, et à la suite desquels on compte autant de déceptions que de succès. Les lieux fixes, contemporains d'années différentes, c'est en nous-mêmes qu'il vaut mieux les trouver. C'est à quoi peuvent, dans une certaine mesure, nous servir une grande fatigue qui suit une bonne nuit. Celle-là, pour nous faire descendre dans les galeries les plus souterraines du sommeil, où aucun reflet de la veille, aucune lueur de mémoire n'éclaire plus le monologue intérieur, si tant est que lui-même n'y cesse pas, retourne si bien le sol et le tuf de notre corps qu'elles nous font retrouver, là où nos muscles plongent et tordent leurs ramifications et aspirent la vie nouvelle, le jardin où nous avons été enfants. Il n'y a pas besoin de voyager pour le revoir, il faut descendre pour le retrouver. Ce qui a couvert la terre n'est plus sur elle, mais dessous. L'excursion ne suffit pas pour visiter la ville morte, les fouilles sont nécessaires. Dans Tristesse d'Olympio, celui qui dit « je » tente de retrouver un passé qui n'est plus sur des lieux où il a vécu. Mais Olympio, comme le narrateur de la Recherche, constate que ce genre de pèlerinage est voué à l'échec. Olympio cherche aussi un jardin perdu, veut se souvenir, puis réalise que les années ont métamorphosé le paysage de ses amours. Et il comprend que le souvenir n'est pas extérieur à soi. Il va retrouver le passé dans ces jours où la tête au poids des ans s'incline, et par le rêve, quand notre âme en rêvant descend dans nos entrailles. Le narrateur de la Recherche estime de son côté que c'est après une grande fatigue que suit une bonne nuit que nous avons des chances de retrouver le passé, et lui aussi choisit la voie du rêve qui lui permet de descendre là où nos muscles plongent et tordent leurs ramifications, autrement dit dans ces mêmes entrailles évoquées par Olympio. Ce qui a recouvert la terre n'est plus sur elle, dit le narrateur de la Recherche, et Olympio constate « Nos chambres de feuillage en alliés sont changées ». Olympio compare la descente de l'âme dans les entrailles de l'être à celle d'un archéologue dans les entrailles de la terre ou d'un mineur dans une galerie souterraine. Comme quelqu'un qui cherche en tenant une lampe, loin des objets réels, loin du monde rieur, elle arrive à pas lents par une obscure rampe, jusqu'au fond désolé du gouffre intérieur. Le narrateur de la Recherche use d'une métaphore analogue et reprend des mots de Hugo pour évoquer la descente dans les galeries les plus souterraines du sommeil, où aucun reflet de la veille, aucune lueur de mémoire n'éclaire plus le monologue intérieur. Olympio poursuit ses fouilles dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile et va y sentir quelque chose palpiter sous un voile, le souvenir endormi dans l'ombre. Cette descente en soi trouve son aboutissement dans le temps retrouvé. mais Proust va gommer en partie ses sources hugoliennes, disant qu'il s'est inspiré, pour sa théorie sur le temps, de Nerval, Chateaubriand et Baudelaire. Rien d'étonnant, il lui arrive de cacher certains chemins qu'il a empruntés. Dans sa biographie de Hugo, Jean-Marc Ovaz rapproche deux passages d'un texte du poète publié en 1890, En voyage, Alpes et Pyrénées, et les évocations de mémoire involontaire à la fin du roman proustien. Il voit dans le récit du voyage le rappel du vers de tristesse d'Olympio, les grands chars gémissants qui reviennent le soir. Hugo entend le grincement des roues d'un chariot et fait une remontée inattendue dans le temps. Je me suis senti subitement rajeuni. Il m'a semblé que toute mon enfance revivait en moi. Je ne saurais vous dire par quel étrange et surnaturel effet ma mémoire était fraîche comme une aube d'avril. Tout me revenait à la fois. Les moindres détails de cette époque heureuse m'apparaissaient nets, lumineux. À mesure que la charrette à bœufs s'approchait avec sa musique sauvage, je revoyais distinctement ce ravissant passé et il me semblait qu'entre ce passé et aujourd'hui, il n'y avait rien. Plus loin, un volet de Pampelune renouvelle l'expérience du grincement de la charrette à bœufs. J'ai dit, tiens, voilà mon vieux volet. À chaque phase de notre vie, nous oublions notre être tout entier et nous l'oublions dans un coin du monde. Tout cet ensemble de choses indicibles qui a été en nous-mêmes reste là dans l'ombre, ne faisant qu'un avec les objets sur lesquels nous sommes emprunts à notre insu. Un jour enfin, par aventure, nous revoyons ces objets. Ils surgissent devant nous, brusquement, et les voilà qui, sur le champ, avec la toute puissance de la réalité, nous restituent notre passé. Postérieur à Tristesse d'Olympio, ce texte en poursuit la réflexion et permet à Hugo de dépasser l'évocation des grands chars gémissants, d'en déceler la genèse dans un souvenir enfoui. C'est surtout à l'extrême fin du roman proustien que les réminiscences hugoliennes se fondent au creuset proustien. Il est significatif que les deux dernières citations littéraires du temps retrouvé soient des citations de Hugo, et aussi que la première, ainsi que le paragraphe qui suit, soit une addition marginale au texte. Victor Hugo dit « Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Moi, je dis que la loi cruelle de l'art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe non de l'oubli mais de la vie éternelle, l'herbe drue des œuvres fécondes sur laquelle des générations viendront faire gaiement sans souci de ceux qui dorment en dessous leur déjeuner sur l'herbe. » Comme si Proust s'était aperçu après coup du rapport entre sa réflexion sur la mort, l'œuvre d'art et le temps, et le poème de Hugo à Villequier. La soumission à Dieu devient chez Proust la soumission à l'œuvre d'art, toute puissante, à laquelle le narrateur est à présent prêt à tout sacrifier. La douleur de l'homme doit y entrer comme élément. Mon livre, a dit le narrateur quelques pages avant, il faudrait le créer comme un monde. Je ne suis évidemment pas d'accord avec Françoise Le Riche, qui voyait dans cette citation une polémique anti-hugolienne, une destitution du père trop écrasant. Le « moi-je » ne constitue pas, à mon avis, une opposition au grand Victor Hugo. C'est enfin, de la part du narrateur, le sentiment qu'il peut, à son tour, prendre en main son destin d'auteur, trouver son identité par rapport à la grande figure du XIXe siècle, qui reprend sa place auprès de Manet, se servir de ses trouvailles en les approfondissant et en les faisant siennes. Une lettre à Émile Henriot du 30 décembre 1920 est à cet égard révélatrice. Je ne crois pas. Parce que l'on a dit avant vous que les jets d'eau chantaient, que vous deviez pousser le scrupule jusqu'à les faire taire. Et je ne crois pas. Parce que dans Tristesse d'Olympio, Hugo a parlé des grands chars gémissants, qu'il vous soit interdit de reprendre cette expression si belle et si vraie. Je crois pourtant qu'il vaut mieux, en allant plus au fond de sa propre impression, en trouver un rendu plus personnel et par conséquent plus véridique. Il faut que les enfants meurent, Albertine ou Léopoldine, et nous en souffrons. Mais ces souffrances, comme celles de Hugo, permettront d'enfanter autre chose, peut-être des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, enfanter des chefs-d'œuvre, c'est encore souffrir. Pour le narrateur, qui devra travailler en se sachant menacé par la mort, l'écriture se fera dans l'angoisse. Mais comment bâtir cette œuvre? Comme une cathédrale. La comparaison est d'abord esquissée, puis repoussée. Je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Les cathédrales, a expliqué Hugo, ont été longtemps des livres de pierre, des bibles de l'humanité. Chaque grand livre n'est-il pas à son tour une sorte de bible? Celui du narrateur sera probablement plus qu'une robe, sinon une cathédrale, une église. C'est la comparaison qui ressurgit quelques pages plus loin. À moins, dit-il, que mon œuvre reste comme un monument druidique au sommet d'une île, quelque chose d'infréquenté à jamais. Mais il est bien décidé à y consacrer ses forces, avoir le temps, tout le pourtour terminé, de fermer la porte funéraire. Cette porte funéraire qui ferme le temple dans l'hommage à Théophile Gautier de Hugo. Hugo encore, et pour finir. Le poète parle lui aussi de la postérité à l'occasion de la mort de son ami, druide au pied du noir menhir, image qui a pu amener chez Proust celle du monument druidique. Lorsqu'un vivant nous quitte, ému, je le contemple, car entrer dans la mort, c'est entrer dans le temple, écrit Hugo. Le narrateur de la recherche veut graver dans le temple sa perception des vérités. Là encore, Proust opère un léger déplacement. Hugo parle de la postérité à laquelle accède Gautier, alors que son narrateur entend par le temple l'œuvre à accomplir. Mais dans les deux textes, toutes les religions se fondent pour devenir la même, celle de la création artistique, syncrétisme peu orthodoxe. Gautier est aussi mage à Thèbes, Flamine au bord du Tibre et Brame au bord du Gange. Remarquons que se retrouve aussi dans le poème la métaphore de la montée vers des hauteurs prodigieuses avant la mort. Monte l'âpre escalier. Du haut des sombres marches, du noir pont de l'abîme on entrevoit les arches. Va, meurs, la dernière heure et le dernier degré. Mais alors que Hugo, voulant rejoindre Gautier et ses amis poètes morts avant lui, s'écriait « Ne fermez pas la porte funéraire », le narrateur proustien ne veut pas mourir avant d'avoir achevé son livre, tout en sachant qu'il faudra disparaître. Sans doute mes livres, eux aussi, comme mon être de chair, finiraient par mourir, mais il faut se résigner à mourir. Écho de « Passons car c'est la loi », nul ne peut s'y soustraire. Hugo voit s'avancer le dur faucheur avec sa large lame, pensif et pas à pas vers le reste du blé. Proust reprend l'image du blé qui meurt en citant cette fois la Bible. Car si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a semé, il restera seul, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Les graines semées par Hugo et par d'autres ont porté des fruits. Dans les générations suivantes, le narrateur y compris, font leur déjeuner sur l'herbe. Enfin, réapparaît la formule si proche de la conclusion de Tristesse d'Olympio, « C'est en moi-même que j'étais obligé de redescendre ». Cette descente en soi permet au narrateur de puiser la substance de son livre, de retrouver le temps à l'état pur. on sait que les mots « dans le temps » isolés à la fin du roman nous ramènent, comme par un effet de surimpression, au début du livre. Passé et présent fusionnent, de même que ne sont plus opposés le Hugo du début et celui de la fin. À Vilquier et à Théophile Gautier, poèmes de la deuxième partie de la vie du poète sont mis en relation étroite avec Tristesse d'Olympio. Le narrateur dépasse le pessimisme d'Athéophile Gautier. L'onde antique est tarie où l'on rajeunissait, comme il n'est plus de Styx, il n'est plus de Jouvence, et trouve sa fontaine de Jouvence. Adolphe avait tort de mésestimer son neveu. Il ne sera ni un petit Victor Hugo, ni une espèce de Volabelle, il sera Marcel Proust.
Merci beaucoup, Madame Gaziglia et Laster, de votre intervention très argumentée. Et je suis particulièrement intéressé par cette communication parce que il me semble qu'il y a quelques points qui rejoignent ce que je voudrais présenter très modestement dans ma communication. Alors, je vais maintenant céder la parole à l'auditoire. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou de faire part.
Merci beaucoup. Oui, je voudrais dire deux choses. Enfin, je voudrais d'abord revenir sur un des points que tu as développé, qui est l'usage de la littérature dans la recherche du temps perdu. J'ai trouvé ce que tu disais extrêmement intéressant. En allant peut-être un tout petit peu plus loin, et puis je voudrais te poser une question. Alors, le premier point, c'est que, bon, dans la recherche, c'est-à-dire le narrateur, on lit Georges Sand, on parle de Racine, on parle Racine d'ailleurs, on ne parle pas d'eux, on parle Racine, comme ça, en entrant, fermant la porte. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec Hugo? Je crois que c'est un usage, Proust en fait un usage relativement pervers, parce que prendre la poésie, Hugo par exemple, au hasard, et en faire un sujet de discussion pseudo-mondaine, culturelle, à table chez la Duchesse, c'est nécessairement mettre les personnages en situation de révéler toutes leurs bêtises. C'est-à-dire que je me suis déjà demandé si Proust ne faisait pas de Hugo une sorte d'article du dictionnaire des idées reçues de Flaubert, d'une certaine manière. Parce que pour Proust, ce que ça finit par signifier, c'est que si c'est justement la poésie de Victor Hugo dont on parle chez la Duchesse, c'est que l'exacte mesure du beau, c'est précisément Victor Hugo. Une autre manière ironique de dire, pour Proust, Victor Hugo, c'est moi.
Oui, tout à fait. Bon, mais je pense que cette discussion mondaine, elle est aussi intéressante d'un autre point de vue, c'est que elle présente tout un éventail de la réception de Hugo au XIXe siècle, et Hugo reprend toutes les critiques qui ont été faites contre Hugo à l'époque, pour les ridiculiser, enfin, et prendre ses distances par rapport à ses critiques.
Et alors la question, c'est, j'ai pas bien compris, le rapport Hugo-Manet.
Le rapport Hugo-Manet, c'est que très souvent, Proust associe Hugo à Manet et à Racine comme une sorte de continuité. Pour lui, il y a une sorte de continuité entre Racine, Hugo et Manet, c'est-à-dire que ce sont des classiques. Parce que pour lui, il n'y a pas de séparation entre romantique, classique, mais que les classiques, ce sont des gens qui choquent. Quand ils écrivent, qu'ils sont très mal reçus au premier abord parce qu'ils apportent quelque chose de neuf, qui est mal compris, et donc ils deviennent des classiques. Et dans cette continuité, on trouve Racine, Hugo et Manet, curieusement. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il refuse l'antagonisme, romantisme, classicisme, constamment. Pour lui, il n'y a pas d'opposition entre romantique et classique. Il y a les grands romantiques et les grands classiques, et ce sont tous des classiques.
Je crois que de toute façon, il y a un rapport entre Olympia et Olympio.
Oui aussi.
Oui, oui, il me semble. Hein, il me semble. Bon, je ne suis pas assez connaisseur de Manet pour l'affirmer catégoriquement, mais je crois tout de même que bon, il y avait un petit clin d'œil et que Manet, étant un républicain fervent, un peintre tout de même engagé politiquement, avait à l'égard de Hugo une sympathie et associé, disons. La modernité choquante de Manet à celle de Hugo, ça n'est pas du tout absurde, même si ensuite Proust donc substitue à Hugo Baudelaire, parce qu'évidemment le rapport paraît plus évident, ne serait-ce que chronologiquement, entre Baudelaire et Manet.
Non, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a eu l'article de Léon Daudet.
Voilà, voilà.
Et qu'il prend quelques distances avec Hugo. Bon, et puis ensuite, il revient à Hugo un peu plus tard.
Mais l'idée d'origine se tient. Enfin, elle a une espèce de consistance.
Je crois que M. Yoshikawa voulait intervenir.
Puis il y a le fait de le déjeuner sur l'herbe.
À part les traces importantes de Hugo, surtout de la tristesse de Rampia que vous avez brillamment analysée, et le poème Bois endormi, c'est plutôt la duchesse de Guermantes qui cite les vers de Hugo. Et en principe, dans cette scène mondaine, comme Madame Savy a dit tout à l'heure, c'est un peu ridiculiser la réception du monde, des arts dans le monde. Donc je me demande si vraiment Proust a aimé Hugo, parce que dans l'article que vous avez cité sur Baudelaire, qui n'a pas été publié de son vivant, mais Proust dit que la force du verbe de Baudelaire est 100 fois plus fort que celui de Hugo. Donc je me demande si, à part quelques rôles très, très, très importants de Hugo dans le roman de Proust, si vraiment Proust a aimé Hugo. C'est une quête tout à fait bête.
Moi je pense qu'il est très imprégné de Hugo, il aime beaucoup Hugo, il essaie à un certain moment de s'en débarrasser parce que c'est une figure beaucoup trop écrasante, hein. C'est pour ça que je disais que j'étais un peu dans la continuité de la communication de Didier Chiche, parce qu'il ne veut pas finir comme Romain Rolland et justement être dévoré par Victor Hugo. Et l'article à propos de Baudelaire, alors j'ai regardé très attentivement l'article de Daudet qui paraît juste avant, est très très démarqué, et il est très très démarqué de celui de Daudet. Proust reprend presque les mêmes arguments, et on a vraiment l'impression là qu'il y a une influence, hein, malheureusement, de Léon Daudet, et qu'il essaie de faire plaisir à Daudet, à qui il doit beaucoup, on le sait, c'est un autre père, hein, Daudet. Mais je pense que Hugo admire profondément Proust, excusez-moi du lapsus, Proust admire profondément Hugo, ça se sent dans toutes les références implicites et explicites à la recherche. Et quand il confronte comme ça les personnages entre eux dans leurs discussions, le narrateur est toujours du côté de Hugo, mais ses idées sont bien sûr beaucoup plus avancées que celles de ses personnages qui rejettent certains aspects de Hugo. La duchesse de Guermantes n'aime pas le Hugo de la fin, alors que c'est celui qu'aime Proust et qu'aime le narrateur. Donc il est forcément là en opposition avec la duchesse de Guermantes, me semble-t-il. Mais j'ai l'impression d'une très profonde connaissance de l'œuvre de Hugo et en fait d'une très profonde admiration, mais en même temps, il est encombrant, Hugo, hein, donc il faut s'en débarrasser.
S'il vous plaît, monsieur.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de très étranger à Hugo dans le fait de tomber dans le palmarès parce que toute une idée reçue officielle pendant un certain temps a fait de Hugo le premier poète du 19e siècle, et on sait qu'ensuite il a été remplacé sur le podium, je prends exprès une formule sportive, par Baudelaire. Et ça, c'est profondément anti-Hugo, parce que si on se souvient de William Shakespeare, c'est la République des Hugo. Et je crois que Hugo aurait été très hostile à cette bêtise profonde qui consiste à voir soit la littérature, soit la philosophie avec un numéro un par siècle.
Oui, oui, tout à fait. Et je crois que Proust dépasse tout de même ça. Bon, il y a cet article à propos de Baudelaire où on peut regretter justement qu'il fasse ce palmarès au détriment de Hugo, mais il le dépasse complètement après dans la recherche, donc heureusement.
Alors, merci de toutes ces questions.